Vous écoutez France Culture.
Terre, le magazine de l'environnement. Ce matin, la question démographique. Je vous l'ai dit, ce mois-ci, on s'intéresse à différentes facettes des relations entre l'homme et son environnement. Et cette question de la démographie revient souvent, d'ailleurs, plus souvent sous forme d'une demande des auditeurs. Vous devriez aborder la question démographique. Et en vérité, on trouve rarement des interlocuteurs qui aient travaillé sur cette question. On rencontre ce matin Faye Dutchin. Faye Dutchin, vous êtes professeure d'économie à l'Institut Polytechnique Rensselaer dans l'État de New York, aux États-Unis. Et nous nous sommes rencontrés sur une question qui est brûlante, on va dire, et qui reste relativement peu traitée en France. Il y a pas mal de craintes autour de cette question. C'est la question de la démographie. La question de la démographie mondiale qui est à rapprocher des problèmes environnementaux. Qui est à rapprocher des problèmes économiques, évidemment. Donc c'est pour cette raison que j'ai demandé à vous rencontrer. Et vous arrivez en pointant immédiatement quelque chose qui me paraît très juste. Vous me dites immédiatement, je travaille énormément en réseau, j'ai des collègues dans le monde entier, pas en France. Comme si il y avait une sorte de faille culturelle entre la France et peut-être quelques autres pays d'ailleurs, et un monde anglo-saxon qui aurait une autre manière de réfléchir au problème.
C'est vrai que je n'ai pas beaucoup de collègues de travail en France, mais ce n'est pas un monde anglo-saxon non plus dans lequel je travaille. La plupart de mes collègues en Europe sont ou bien de langue allemande, ou bien des pays nordiques, et il y en a beaucoup. Mais je ne serais pas en mesure de décrire un gouffre culturel. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'ai quand même la conviction que dans les années à venir, on aura des collègues en France aussi bien que partout ailleurs, parce que c'est clair que l'urgence de ces questions de l'environnement augmente partout dans le monde et en France tout autant qu'ailleurs.
Oui, ça c'est évident. Mais qu'est-ce qui, dans votre approche, est si différent de ce qu'on pourrait faire ici, par exemple?
Ce qui est caractéristique de mon approche dans la recherche, c'est de combiner les problèmes urgents avec les méthodologies scientifiques, c'est-à-dire d'essayer de construire et la théorie et la méthodologie, mais en service de questions urgentes. Et dans le passé, je trouve que la recherche a été poursuivie par curiosité, qui est une bonne raison pour faire de la recherche, il faut dire, mais c'est une autre motivation que celle que je décris là. Il faut dire que ça rend plus difficile de construire une carrière pour un jeune chercheur. C'est beaucoup plus facile de travailler dans une discipline et en utilisant les méthodes et les théories déjà en place de cette discipline. Et là, le travail que je décris là, c'est plutôt, c'est différent, c'est un autre chemin.
Ce que vous décrivez, c'est un travail de construction. Construction des outils, construction des questions, construction de la manière de les aborder. Alors peut-être que vous pourriez déjà nous donner un exemple pour qu'on voit comment ça fonctionne.
Comme exemple, une des questions qui est pour moi personnellement le plus absorbant, qui m'engage le plus maintenant, et c'est un modèle mathématique de l'économie mondiale. Et je ne veux pas en parler sur le plan technique, ce n'est pas ça qui est important là. Ce qui est important, c'est que les premiers modèles de l'économie mondiale ont été construits dans les années 70. Et la raison, c'était des questions urgentes. C'était la hausse de prix du pétrole et le concern de l'effet que ça allait avoir et sur les pays riches et sur les pays en voie de développement, surtout des pays très pauvres qui n'avaient pas de pétrole, eux. Pendant les années 80 et 90 même, il n'y avait pas tellement d'intérêt dans ces modèles. Et comme c'est assez cher, relativement cher, relative à d'autres modes de recherche pour les économistes, de construire des bases de données énormes, mondiales, et des modèles informatiques, mathématiques, pour utiliser ces bases de données. Il n'y avait vraiment pas assez d'argent, assez de financement pour construire et utiliser ces modèles. Maintenant, ça a changé.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le même temps où on n'avait pas les finances pour construire des modèles mondiaux, l'économie mondiale, elle, se développait et s'installait véritablement dans le paysage.
C'est vrai. Et c'est pour ça que maintenant, il y a beaucoup d'intérêt dans ces modèles. Il y a une floraison de modèles mondiaux de toutes sortes, y inclut le modèle que moi et mes collègues ont construit. Et il commence à y avoir de l'argent pour travailler avec. Et en fait, une des raisons que je viens relativement souvent en Europe, c'est que je travaille avec des collègues sur un projet qui est financé par l'Union européenne, de construire une nouvelle base de données mondiale pour utiliser avec mon modèle, avec d'autres modèles aussi, pour aborder des questions et de la globalisation et des problèmes environnementaux.
Alors, je vous ai demandé un exemple, on ne l'a pas encore exactement eu. Est-ce qu'on pourrait peut-être démarrer sur l'alimentation ou bien est-ce qu'on démarrerait sur la démographie, puisque c'était de ça que nous devions parler? Je vous laisse le choix, Faye Dutchin.
OK. Non, c'est vrai que je n'ai pas exactement répondu aux questions que vous avez posées, c'est vrai. Maintenant, parler de la population et de l'alimentation. Moi, je dirais qu'il y a deux choses prépondérantes qui font le problème qu'on a aujourd'hui avec l'environnement. Sans parler de la globalisation, c'est une autre question, on peut en discuter un autre jour. En ce qui concerne l'environnement, les problèmes sont simples. C'est une question du nombre de gens qu'il y a sur la Terre et de comment on vit. Parce que si on avait un nombre très faible, comme on avait avant la révolution industrielle, on pourrait faire presque n'importe quoi, sans avoir un grand impact sur la Terre, sur la planète, parce que la planète a beaucoup de systèmes qui sont encore plus forts que notre ingénuité de technologie. Alors, si on était peu nombreux, ça serait beaucoup moins de problèmes. Et même en ayant le nombre de personnes qu'on a maintenant, qui est de 6,7 milliards de gens, si on vivait plus simplement sur le plan matériel, si on avait moins d'objets, si on vivait dans des domiciles beaucoup plus petits, ça aussi, je crois qu'on pourrait très bien faire, même avec le nombre qu'on a de personnes. Mais c'est passé que la révolution industrielle qui nous a donné la possibilité d'augmenter jusqu'à la population qu'on a aujourd'hui, a aussi donné la possibilité d'extraire des ressources qui n'étaient pas accessibles avant. Et en utilisant des technologies, une génération de technologies après l'autre, d'utiliser des ressources très intensivement. Alors, on a beaucoup de gens sur la Terre et on vit bien, on veut vivre mieux. Des gens dans les pays en voie de développement veulent vivre aussi bien que nous dans nos pays. Bah, c'est cette combinaison-là qui fait le problème.
Problème urgent, effectivement, mais est-ce qu'il y a des solutions en vue? C'est là, si vous voulez, que ça devient extrêmement délicat et c'est là qu'arrivent les craintes que j'évoquais au début de notre entretien. Parce qu'évidemment, on pense tout de suite malthusianisme, on pense à des solutions qui n'en sont absolument pas.
Cette question me donne la possibilité d'essayer de faire valoir la recherche qui peut parfois paraître très abstraite et pas tellement utile. Mais de la recherche interdisciplinaire sur ces problèmes est sortie la conviction qui a trois ensembles de régions dans ce qui concerne un mode de vie où il faut concentrer l'attention, où il faut essayer de faire autrement. Et ces trois sont l'alimentation, que vous avez mentionné, l'habitat, et puis la mobilité, le degré de déplacement et la manière de se déplacer. Et l'alimentation est dans certaines mesures le plus facile, parce qu'on peut changer sa manière de manger, son régime de manger, sans que personne d'autre ne fasse quoi que ce soit. On peut décider de manger, disons, moins de viande et plus de légumes, qui utilisent beaucoup moins de ressources. Et par ressources, là, je veux dire du terre, de l'eau douce, des produits chimiques, du pétrole pour transporter des choses, des manger, des produits agricoles d'un endroit à un autre. Alors, ce n'est pas facile. Parce que le régime tient à une culture et des gens ont l'habitude depuis des générations de manger d'une manière ou d'une autre. Et dans les pays en voie de développement, eux veulent manger plus de produits animaux, pas moins. Et nous, dans nos pays, on ne veut pas se priver non plus. Mais je dis quand même que l'alimentation est plus facile que ces autres domaines-là parce que... moi et vous, on peut décider d'un jour au lendemain de manger autrement.
Ce qui est intéressant, Fei Dachin, justement, sur cette question-là, c'est que vous avez étudié ce qui se passerait si on changeait de mode alimentaire. C'est-à-dire si on arrive à consommer davantage de légumes et de céréales, moins de viande. Vous avez calculé ce qui se passerait au niveau de la répartition des terres, également ce qui se passerait entre la répartition entre l'élevage et l'agriculture. Vous avez également établi le lien entre ces changements alimentaires et les changements climatiques qui sont en vue, avec les pressions que ça va exercer sur l'eau, par exemple, et sur les terres arables. Donc le modèle que vous évoquiez tout à l'heure, et qui pourrait en effet sembler un modèle extrêmement abstrait, est totalement imbriqué dans les modes de vie les plus personnels, je dirais, et néanmoins, vous arrivez à en tirer des perspectives mondiales.
C'est bien cela qu'on a envie de faire, et on fait chaque fois qu'on fait une nouvelle étude, on fait du progrès à approcher, à aborder ce bout-là. Maintenant, dire qu'on a aussi évalué et quantifié combien ça changerait si les gens changeaient le mode de vie, on a commencé cette étude-là, mais il reste encore beaucoup de choses à faire.
Oui, mais toutefois, vous avez lancé l'interrogation et vous avez esquissé des perspectives.
Oui, ça c'est très important dans mon avis, parce que ça c'est pas tellement répondu en recherche. La plupart des chercheurs travaillent dans un chemin qui a déjà été décrit. Alors, décrire un nouveau chemin, c'est autre chose.
Il faut peut-être préciser aussi, Fei Dachin, que ces modifications alimentaires que vous invoquez ne sont pas seulement importantes du point de vue de l'environnement, mais également du point de vue de la santé.
Oui, justement. Et c'est le cas avec beaucoup des phénomènes en question. Et c'est pour ça que, malgré tous les problèmes, je reste plus ou moins optimiste. Parce que je crois que presque toutes les choses qu'on doit faire, il y a des gens qui les voient comme compromis, que c'est pas commode, que c'est un sacrifice. Mais je trouve que dans presque tous les cas, on peut voir la manière que ça enrichit la vie, que c'est plus sain ou que c'est plus intéressant. Parce que le problème de consommation, c'est de vouloir toujours plus d'objets, de plus de mobilité, etc. Mais on sait bien qu'il y a des choses enrichissantes dans la vie qui consistent à rester sur place, à lire, à discuter, à penser, à voir la convivialité avec la famille, les amis. Et ça, c'est la récompense pour avoir moins d'objets et moins de voyages.
Et moi qui pensais que vous alliez me parler du régime crétois?
Oui, en ce qui concerne la nourriture, c'est bien clair que c'est meilleur pour la santé de, aussi de manger moins de produits animaux. Mais le problème là, c'est que même si on arrive à faire ça dans nos pays, et je crois qu'on fait du progrès parce qu'il faut dire que c'est plus difficile en France qu'ailleurs. Dans mon expérience, d'avoir un repas de restaurant végétarien qui est intéressant. Mais dans beaucoup d'autres pays, maintenant, c'est assez répandu. Mais même si on y arrive dans nos pays, comme j'ai dit tout à l'heure, dans les pays en voie de développement, où le régime est basé sur le riz ou sur un céréale, et avec très peu de produits animaux, eux ont bien sûr envie d'en avoir davantage. Et la plus grande partie de la population mondiale est dans ces pays-là. Et quand on regarde, pour retourner à la démographie, quand on regarde l'augmentation prévue pour la population mondiale de peut-être au moins 2 à 3 milliards de personnes qui vont être été ajoutés à la population actuelle, la presque totalité, c'est dans les pays en voie de développement. Alors, il y a ces contre-courants de peut-être moins de pression sur l'environnement par des régimes dans nos pays, mais sûrement plus dans d'autres pays. Et il faut une analyse pour voir comment ces deux s'équilibrent.
Mais alors, Feidochin, si on reprend les éléments que vous avez évoqués et qu'on essaye de les mettre en relation maintenant les uns avec les autres, on comprend bien qu'une modification de l'alimentation permettrait de mettre une pression moins grande sur les terres arables, c'est important, permettrait donc une pression moins grande sur l'environnement, permettrait une amélioration de la santé publique, mais la question de la démographie, vous venez de le dire vous-même, n'est absolument pas résolue, là.
C'est vrai. Donc, revenons à la question de la population. Et comme je viens de dire, la presque totalité de l'augmentation de la population aura lieu dans les pays en voie de développement, où la fertilité est bien supérieure à celle de nos pays. Je crois que la chose la plus importante à faire là-dessus, c'est d'investir dans des programmes de réduction de fertilité dans ces pays-là. Et ce que ne fait pas tous les pays, mon pays par exemple, les États-Unis, pendant ces dernières années, ne donne pas de ressources pour les pays qui les utilisent pour des programmes de contraception pour des raisons idéologique, religieuse, quoi que ce soit. Mais moi, je trouve que sur des questions de démographie, c'est ça la chose la plus importante à faire. Et ça entraîne beaucoup d'autres changements parce que la Banque mondiale a étudié la question, par exemple, et a trouvé que dans les pays, dans les sociétés où les femmes travaillent en dehors de la maison pour de l'argent, les taux de fertilité diminuent d'une manière très importante parce que les femmes préfèrent avoir une vie sociale, une vie en dehors du foyer, aussi bien que dans le foyer, bien entendu. Et les hommes, dans leur vie, et dans beaucoup de sociétés, c'est eux qui prennent ces décisions, sont contents d'avoir l'argent qu'elles peuvent gagner. Alors, vraiment, ce sont des choses qui marchent en renforçant les uns les autres. Et je trouve que c'est ça le cycle vertueux qu'il faut essayer de soutenir.
Avec tout de même cette difficulté qui est que, comme vous le faisiez vous-même remarquer, c'est la société industrielle qui a provoqué l'explosion démographique, l'explosion de population dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est également la société industrielle qui a orchestré la planification des naissances, ce qui est une manière d'intervenir sur la population. Également la société industrielle qui a, d'une certaine manière, rendu un peu floues les frontières entre la vie et la mort, à la fois en intervenant beaucoup sur la naissance et même en amont, en intervenant sur les grossesses, en réalisant des prouesses pour faire naître des bébés à 3 mois, 4 mois, etc., et pour maintenir en vie très longtemps et souvent au-delà de ce qui est physiquement supportable, on l'a vu plusieurs fois, des personnes soit âgées, soit malades. C'est-à-dire il y a une sorte de jeu là qui constamment consiste à vouloir aller du côté de la vie et en même temps cette constatation qu'il faudrait réduire la population. Et alors, je disais qu'il y a un paradoxe, il y en a même un second, c'est que ce que vous préconisez là, Fei De Qin, c'est finalement une moindre fertilité par le remplacement finalement des enfants par un salaire à l'extérieur, donc gagner davantage d'argent. Là encore, on est dans une spirale qui est bien celle de notre époque, qui consiste à gagner toujours davantage pour pouvoir consommer toujours davantage, donc il faut produire toujours davantage. Donc, alors, comment est-ce que vous jonglez, vous, avec toutes ces difficultés?
Ok, très bien posé. Ok, pour la première chose, là, dire que la technologie, a suscité, a provoqué cette augmentation de population et prolonger la vie, etc. C'est vrai. En même temps, si on regarde les pays industriels riches, on voit que les taux de fertilité ont diminué et que même la taille de population, elle est en décroissant. Et c'est pour ça que dans certains pays comme la France, il y a eu même des politiques pour encourager la naissance. Et sinon, on allait une population décroissante. Alors, bien que ce soit vrai qu'il y a beaucoup de choses là, que c'est assez complexe, moi je dis que quand même l'effet dominant dans les pays où les femmes ont la possibilité d'avoir une vie en dehors de la maison, c'est une population qui va en décroissant. Okay. Pour la deuxième chose, c'est vrai que si les femmes donc, ont une vie en dehors de la maison, la motivation la plus importante souvent, c'est de gagner plus d'argent pour dépenser plus d'argent, etc. Mais d'abord, je fais remarquer que ce n'est pas la seule chose qu'on puisse faire en dehors de la maison pour avoir une vie sociale, gagner de l'argent. On peut suivre des passions quelconques qui gagnent de l'argent, mais pas forcément le maximum possible. Je crois que le désir ou la réalité de moins consommer ne tient pas directement à le fait qu'il y ait plus d'une personne dans un foyer qui travaille en dehors de la maison. Il y a des travaux à mi-temps, et je sais qu'en France, vous en avez parlé, mais il n'y avait pas une pression pour. Mais c'est une chose qu'on peut envisager, c'est que tout le monde travaille moins, gagne moins, consomme moins.
Pardonnez-moi, je souris parce qu'effectivement, ce n'est pas exactement la tendance en ce moment. Mais je pense que c'était peut-être ma question a été peut-être sous-tendue par le fait qu'au paramètre que vous proposiez, qui était un paramètre de la Banque mondiale, donc les femmes qui gagnent davantage ont moins d'enfants, j'aurais préféré proposer un paramètre qui provient, lui, du programme des Nations Unies pour le développement et qui dit que les femmes alphabétisées font moins d'enfants.
Ok, j'aurais mieux fait de l'exprimer comme ça, parce que c'est pas que ces femmes gagnent des fortunes, c'est plutôt qu'elles sont occupées en dehors de la maison et qu'elles gagnent un peu, c'est vraiment pas beaucoup. Et tout le monde connaît aujourd'hui l'histoire du Grameen Bank, la banque Grameen, et là, les femmes sont mobilisées pour avoir une vie sociale active. Elles ne gagnent pas beaucoup, mais quand même beaucoup moins qu'auparavant. Elles sont toujours pauvres, c'est-à-dire d'après des critères de la Banque mondiale, c'est vraiment toujours dans la pauvreté, mais pas dans la pauvreté aussi extrême que c'était auparavant. Alors, on ne parle pas de doubler le revenu d'une famille qui vit, d'un foyer qui vit déjà bien. Moi, je parlais plutôt d'autres conditions dans les pays en voie de développement.
Mais restons dans le foyer tout de même, puisque vous le disiez, finalement, c'est lui qui concentre le plus de problèmes environnementaux à travers l'habitat, l'alimentation, la mobilité. Donc là, on a parlé de l'alimentation. Si maintenant, on se tourne vers l'habitat ou la mobilité?
C'est beaucoup plus difficile. Et c'est pour ça, moi, en tant que chercheur, moi, j'ai commencé par la nourriture, l'alimentation, parce que moi, je trouve que dans le genre de recherche qu'on fait, qui est provoqué par des questions et non pas par des méthodologies, ça a du sens de commencer avec les choses les plus faciles, qui sont quand même difficiles, et sûrement par la suite d'aborder des questions plus difficiles. Et c'est plus difficile, l'habitat, parce que là, il s'agit de l'environnement construit. Construit et qui a une durée de vie qui compte en décennies. Alors, on peut changer le régime d'un jour à l'autre, mais on ne peut pas changer le logement aussi bien. Et puis, l'habitat est lié très étroitement avec la mobilité, parce que la mobilité, c'est pour aller au travail, faire les courses, aller au cinéma, etc. Et le besoin de mobilité, de transport pour faire ces choses-là dépend de la distance entre l'endroit où on vit et ces autres endroits et le choix de moyens de transport.
Mais ça, Faye Dachin, ce sont des questions que nous, on aborde assez régulièrement en France. Donc, quand vous me disiez qu'il y a une manière différente, une manière autre d'aborder les questions, comment est-ce que vous abordez ces questions-là d'une manière qui vous semble encore un peu exotique ici?
Un peu exotique, je ne parle pas d'exotisme.
Non, c'est moi.
Oui. Et dire que vous les abordez, quand je vois la circulation dans Paris, je me dis, c'est pas mieux qu'à New York, mais c'est vrai.
Alors là, je parlais des chercheurs, des associatifs. Enfin, il y a quand même une prise de conscience assez globale dans la population de ces questions-là, même si vous avez raison de le dire, il n'y a pas encore de traduction dans les faits. Ça a quand même été un des thèmes importants du Grenelle, même si on attend encore des résultats.
OK, c'est sûr qu'il y a beaucoup de recherches là-dessus. Pour moi, la manière de pouvoir investiguer une question, c'est de le traduire en un scénario. Je ne sais pas si c'est un concept familier, le
oui,
scénario. OK, un scénario que je peux analyser avec le modèle avec lequel je travaille pour le moment. Et maintenant, c'est ce modèle de l'économie mondiale. Donc, il faut pouvoir exprimer le scénario dans les variables et les paramètres du modèle. Alors, pour faire ça, il faut savoir de quoi consiste la consommation du foyer pour maintenir un domicile plutôt qu'un autre. Alors, il y a le chauffage, le refroidissement, il y a l'énergie utilisée pour tous les trucs, toutes les machines, les machins qu'on a à la maison. Il y a tout le contenu en objet de la maison et la manière de les jeter et où vont les ordures après. Et si tout ça peut être précisé de manière quantifiée, moi je peux analyser combien de différences ça peut faire pour l'environnement. Et on a fait ces essais-là, mais avec des variations assez faibles dans tous ces paramètres parce que les gens... On ne peut pas changer les logements des gens sans refaire la géométrie de nos villes. Alors, moi, je trouve que parmi les essais les plus intéressants, c'est d'essayer d'éviter des voitures, de prohiber les voitures dans certaines parties d'une ville et de fournir le transport en commun pour que les gens se déplacent. Mais les scénarios qu'il faut avoir derrière, c'est de savoir comment les gens vont utiliser le temps autrement. Et c'est vrai qu'il y a une recherche sur l'utilisation du temps, parce que tout le monde a 24 heures par jour, et le temps qu'on contribue à faire des choses différentes. Alors, utilisation du temps, achat, et puis représenter tout ça pour des foyers différents, parce que du point de vue économique, des foyers avec des revenus différents, avec des qui habitent des villes ou des villages, etc., sont différents. Alors, pouvoir décrire donc ces modes de vie différents pour des foyers différents de manière quantifiée, c'est ça qu'on essaie de faire pour savoir quelles sont les possibilités de changement de pression sur l'environnement.
Alors ça, c'est extraordinairement complexe. Hein. Je ne suis pas sûre d'avoir tout compris, même si j'ai compris chaque segment de ce que vous avez dit, je n'arrive pas à voir exactement qu'est-ce que vous arrivez à déterminer, quels sont les paramètres finalement qui sont les plus importants. Vous avez parlé de l'habitat, en disant l'habitat, on ne peut pas tellement le transformer, il est là pour durer, ce qui est vrai. Donc, vous avez regardé comment les gens vivent, vous avez regardé comment ils se déplacent et vous avez regardé comment ils emploient, à quoi ils utilisent leur temps, c'est ça? Oui. Si c'est pour des achats ou pour...
Oui, quand je dis « nous », ce n'est pas moi et mes collègues immédiats. C'est-à-dire que ce sont des zones de recherche. Il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. Comme vous avez dit, ce n'est pas nouveau de travailler sur ces questions-là. Et parmi les littératures de recherche que moi je connais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur les morceaux ici et là que j'ai décrits là. Et en essayant de mettre tous les morceaux ensemble, on peut dire, ce qu'on peut dire maintenant, c'est que sans changement dans l'environnement construit, c'est-à-dire étant donné les habitations qu'il y a maintenant, la possibilité de changement d'utilisation de ressources est assez faible. C'est pour ça que moi, je conclue qu'il faut un changement dans l'habitation qui nous sont offerte. Et pour ça, il faut réenvisager une ville et comment ça peut vivre, réenvisager la densité de population. Par exemple, nous, aux États-Unis, on a beaucoup de gens dans les banlieues qui veulent être de banlieues de plus en plus loin de la ville pour avoir plus d'espace et plus grandes maisons, et pas seulement le chauffage, mais aussi le refroidissement, l'air conditionné. Ce n'est pas possible pour l'avenir.
C'est pas possible pour l'avenir, c'est déjà pas possible pour le présent. À cette expansion des villes occidentales que vous décrivez, on doit ajouter l'expansion des villes dans les pays en développement, où là aussi il y a un phénomène de suburbanisation qui prend des proportions gigantesques, mais cette fois sans chauffage, sans air conditionné, sans eau, sans électricité, sans rien. C'est-à-dire que c'est un développement exponentiel de bidonvilles.
Ok, et c'est pour ça que un des pays, le pays peut-être qui me fascine le plus maintenant, que je trouve très important pour ces questions maintenant, c'est la Chine. Parce que tout le monde sait que le taux de changement dans la Chine aujourd'hui est sans précédent. On peut dire ça, sans précédent. Et les Chinois ont la possibilité de diriger la direction que prennent les choses beaucoup plus que nos démocraties, parce qu'il y a quand même un gouvernement qui peut dire on ne fera pas ça, mais on va faire ça. Alors, il y a des expériences à faire. Jusqu'à maintenant, moi, je trouve que c'est assez mixte ce qu'ils font, parce que d'une part, ils suivent les voies de développement que nous avons eues dans nos pays, dans pas mal de choses, et c'est dommage, parce qu'il faut vraiment expérimenter avec de nouvelles choses, mais ils font des expériences aussi. Alors, bien que le taux d'augmentation de production d'automobiles et d'utilisation, de production et d'utilisation d'automobiles en Chine est énorme, c'est aussi vrai que je crois qu'ils ne construisent que des voitures hybrides qui sont assez, très efficaces. Quand même, j'aurais préféré voir des expériences avec le transport en commun, ou plus d'expériences avec le transport en commun, parce qu'ils l'utilisent aussi. Et je crois qu'on va le voir, parce qu'il y a sûrement une prise de conscience en Chine des problèmes environnementaux, en partie parce que les problèmes sont même plus extrêmes là-bas qu'ailleurs. Alors, c'est là qu'on peut... On peut essayer d'encourager et qu'on peut étudier les efforts pour voir quelles sont certaines alternatives pour l'avenir. C'est plus facile de construire de nouvelles villes autrement que de prendre nos villes, surtout vos villes en Europe, qui sont beaucoup plus vieilles que les villes aux États-Unis, et de les reconfigurer. C'est assez difficile, mais si les Chinois, si les Indiens arrivent à créer de nouveaux modèles pour les villes, et ils ont des villes les plus populaires du monde, en Asie, surtout en Inde. Ça fournira des modèles pour nous à considérer.
Finalement, j'étais en train de me demander, en vous écoutant, Fei Dechin, ce que vous tirez de ces modèles économiques mondiaux, cette vision mondiale, est-ce qu'elle vous permet de régionaliser, est-ce qu'elle vous permet de faire des confrontations en miroir ou en opposition qui permettrait d'élargir les connaissances et d'offrir une palette plus large de modèles? Ou bien est-ce que tout simplement vous n'êtes pas en train d'appeler de vos voeux une sorte de gouvernance mondiale dont on parle assez volontiers? Parce que un modèle économique mondial répond, me semble-t-il, nécessité ou désir, volonté de votre part, consciente ou non, d'avoir une gestion mondiale des questions. Et ça, c'est un peu étrange.
Étrange. OK. Ça me fait penser à plusieurs choses que j'aimerais dire. Alors, commençons avec mon premier effort, avec ma première recherche avec un modèle mondial. Ça a commencé dans les années 80, et c'était une étude qu'on préparait pour les Nations Unies pour la grande conférence en Rio de Janeiro de 92. Et il y avait un rapport des Nations Unies qui s'appelait, entre autres choses, le Brundtland Report. Mm-hmm. Et c'était le gouvernement de Norvège, de Brundtland, qui initiait cette étude que nous on a fait. Et la question était d'évaluer si le Brundtland Report était réaliste ou non. Et on a voulu qu'on utilise le modèle mondial qu'on avait des années 70, comme j'ai dit tout à l'heure, en posant cette question, en essayant de représenter comme scénario les choses que ce rapport disait.
Rappelez brièvement d'ailleurs ce que c'est, Fei Dechin, parce que tout le monde se souvient que ce rapport a existé, mais somme toute, très peu de gens l'ont lu.
OK. Le sujet de ce rapport était de savoir que faire pour des problèmes environnementaux, parce qu'il y en avait des gens quand même à l'époque qui voyaient que c'était un problème assez grave. Et le rapport était assez optimiste en disant que si simplement on était sage et on ne gaspillait pas des ressources et on utilisait les technologies les plus favorables, pas seulement dans les pays riches, mais aussi dans les pays en voie de développement, bah, ça résoudrait le problème. Donc, on nous a demandé de faire une analyse avec ce modèle en croyant qu'on allait être indépendant et dire oui, c'est très, très bien fait, si seulement on faisait ça, ça résoudrait les problèmes, ou bien non, c'est pas réaliste du tout, même si on fait toutes ces choses-là, difficiles qu'elles sont, ça suffit pas. Bah, c'est le dernier qu'on a trouvé. Hein? Ouais. On était très optimistes dans les assumptions de nos scénarios et on a vu que la génération de carbone, entre autres choses, serait beaucoup moins qu'autrement si on suivait les recommandations du rapport, mais que ça allait en augmentant quand même à cause du développement du tiers-monde. Et ça, c'était dans les années 80. Maintenant, c'est évident, c'est plus qu'évident, parce que la Chine a déjà dépassé les États-Unis pour avoir la première place en génération émission de carbone. Mais à l'époque, c'était une nouvelle idée. OK, on a pris ça par le modèle. Et à l'époque, moi, je me suis dit, il faut dire que quand on travaille avec un modèle aussi grand et complexe, ça prend du temps pour digérer les résultats. Et j'ai mis plusieurs années à me dire, alors, quoi faire? Parce que même avec des assumptions très optimistes sur les technologies, c'est pas une solution. Et c'est pour ça que je me suis dit, il faut que j'étudie la consommation. Parce que les économistes, vraiment, ils s'intéressent, comme vous avez dit, beaucoup plus à la production qu'à la consommation. Et à vrai dire, la plus grande partie de ma recherche, moi aussi, ça se concentre sur les technologies. Mais je trouve que la technologie est fondamentale là-dedans. Mais depuis plus de 10 ans maintenant, comme j'ai dit, j'ai commencé à étudier la consommation et en lisant toute la littérature là-dessus, j'ai trouvé que c'était l'alimentation, l'habitat et la mobilité. Et je me suis dit, bah, l'habitat, le transport, c'est difficile parce qu'on ne peut pas changer l'un sans l'autre. Et ça dépend pas seulement de la volonté d'un foyer, ça dépend aussi de la construction. Je vais commencer avec l'alimentation.
Merci beaucoup pour cet éclairage, parce qu'effectivement, là, je comprends mieux. Il ne s'agit pas de rechercher une gouvernance mondiale, mais il s'agit de ce que vous appelez, et que nous avons repris en français, une approche bottom-up. C'est-à-dire, il s'agit véritablement de partir d'une construction des opinions publiques pour qu'elles fassent ce changement. Et effectivement, vous avez raison, c'est dans l'alimentation que c'est le plus facile. Et à partir de là, vraisemblablement, là je suis en train de penser à votre place, mais parce que je crois que je vous ai comprise cette fois, il s'agirait à partir de là de construire un rapport de force dans lequel les sociétés réclameraient des transformations plus importantes.
Oui, justement, les sociétés réclameraient, mais la société, c'est qui donc? Et c'est nous tous. Mais c'est différencié aussi parce qu'on joue des rôles différents dans la société. Alors, d'une part, c'est les chercheurs. Et pour aller un peu plus loin dans ce que vous venez de dire, avec lequel je suis tout à fait d'accord, un des rôles des chercheurs, à mon avis, pas uniquement des chercheurs, mais quand même une des contributions possibles des chercheurs, c'est une vision de comment on pourrait vivre autrement. Et ça, ce n'est pas une vision spécialiste. Personne n'est spécialiste dans comment il faut vivre. Mais avoir une vision, quand même, c'est quelque chose que beaucoup de chercheurs ont une vision de leur domaine de recherche. Et je trouve que c'est convenable que des chercheurs contribuent à ce genre de vision. Alors, je dis que l'habitat et la mobilité, c'est difficile d'imaginer vivre autrement, mais il faut commencer avec une vision. Pas tout le monde croit ça, parce que parfois des choses émergent. Et c'est bien de laisser émerger des choses dans la société, mais pas quand on a des problèmes aussi urgents qu'on a aujourd'hui avec l'environnement. Alors, laissons émerger, c'est vrai, mais il faut aussi une vision qui guide un peu. Alors, pour des chercheurs, une contribution, c'est une vision. Et la manière dont je vois ce que moi je fais en recherche, c'est à partir d'une vision, j'essaie de traduire une vision en scénario qu'on peut analyser avec ce genre de modèle. Maintenant, sans devenir trop technique, il y a beaucoup de choses qui peuvent s'appeler des modèles. Et moi, j'aime travailler avec des modèles simples, transparents, où on sait très bien qu'on en arrive à un résultat. Pourquoi? Mais ça veut dire que je ne peux pas répondre à toutes les questions. Et il y a beaucoup de modèles, si vous demandez au modeleur, au modélisateur, mais est-ce que vous pouvez faire ça? Oui, mais bien sûr. Mais est-ce que vous pouvez faire ça? Bien sûr aussi. Moi, je trouve que ces modèles-là ont une importance parce que si le chercheur a une bonne intuition, il peut quand même éliminer des choses qui n'ont pas de sens. Mais vraiment, on se fie vraiment sur l'intuition et le jugement des gens qui font marcher ces modèles-là. Moi, je préfère un modèle plus simple. C'est-à-dire, c'est quand même complexe, mais plus transparent, où on sait pourquoi on arrive à un certain résultat. Mais l'effort, c'est d'analyser un scénario basé sur des visions et de voir combien de différences ça peut faire. Pour moi, c'est ça la question. C'est les résultats en ordre de magnitude, pas la précision, ça ne rentre pas dans les modèles dont je parle. Il y a des modèles qui veulent être précis, Et pour certains modèles, il faut la précision. Mais ce dont je parle, ce sont des modèles qui vous donnent un ordre de magnitude. Résultat, quels seraient les effets d'essayer ce scénario versus un autre scénario?
Avec toujours au cœur ce croisement entre le plus petit, c'est-à-dire le foyer, et le plus large, c'est-à-dire la planète.
Le foyer, la planète, mais entre les deux, beaucoup d'autres choses, par exemple les industries. On a très peu parlé des industries et je dois dire que moi je m'occupe beaucoup des industries différentes et je sais maintenant pas mal de choses sur les technologies utilisées dans les industries différentes et dans les choix de technologies possibles. Et là, la question est que pour beaucoup de technologies qui sont moins nuisibles pour l'environnement, qui utilisent moins de ressources et donc sont pour ça moins nuisibles, sont plus chères. Et quelle est la motivation pour un industriel d'adopter une technologie si c'est plus cher qu'une autre? Parfois, vous aurez des preneurs de décisions dans l'industrie qui feront le bon choix pour diverses raisons. Par exemple, parce qu'ils croient que d'ici 10 ans, ils sont obligés de le faire et ils veulent être les pionniers pour avoir un bon début. Mais je crois que quand même, il faut que les gouvernements et que les autres institutions mettre de pression là-dessus pour faire des bons choix. Et pour ça, il faut que la société, c'est-à-dire que les citoyennes, pas les consommateurs, mais les citoyennes, aient dans la tête l'idée que c'est urgent, il faut qu'on fasse des choses autrement. Et moi, je joigne ma voix à d'autres gens. Moi, je crois très fort à ce que pour arriver à un meilleur résultat, il faut que les gens s'engagent. Rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own.
Gilles-Éric Serralini, on vous connaît bien à terre et on a eu envie de vous entendre ce matin pour deux informations qui sont arrivées en même temps cette semaine pratiquement. D'une part, l'annonce que la Commission européenne a décidé d'autoriser l'importation et la commercialisation d'un nouveau soja transgénique de la firme Bayer. Et puis d'autre part, une pétition qui commence à circuler et dont vous êtes l'initiateur, pétition adressée aux députés français et concernant les résultats d'analyses faites sur les animaux avant l'autorisation de commercialisation d'OGM. Alors, il n'y a peut-être pas un lien direct, mais tout de même, est-ce que c'est simplement l'actualité qui nous joue un de ses tours ou est-ce qu'on peut quand même rapprocher ces deux événements ?
Bonjour Roustegazi, oui, en fait on peut, comme vous le suggérez, rapprocher ces deux événements qui sont en fait très importants pour notre avenir. Le premier, c'est que pour la première fois depuis longtemps, étant donné qu'il y a des contaminations dans nos importations, la Commission européenne, et je dis bien la Commission européenne, parce que en fait il y avait déjà 8 États membres qui s'opposaient à cela, a été laxiste dans le sens où elle a accepté un soja qui est fait pour contenir un herbicide. Alors cet herbicide est un petit peu nouveau, c'est pas le Roundup qui concerne plus de 90%, qui est dans plus de 90% des sojas. Il s'appelle le Liberty et c'est un herbicide qui s'appelle le glufosinate ammonium qui est dans certaines publications considéré comme ayant des effets neurotoxiques. Ce soja qui est rendu OGM pour s'imbiber de cet herbicide et pour rien d'autre, c'est clair, c'est pas pour la production, c'est pour faciliter l'épandage de cet herbicide-là, ce qui sert aux gros producteurs d'herbicides et de cultures. eh bien, ce soja pourra contaminer notre alimentation officiellement. Et ce qui est nouveau, c'est que l'Agence européenne de sécurité sanitaire des aliments, qui maintenant a la main mise sur les évaluations, eh bien, a dit ce n'est pas la peine qu'il y ait des tests sur les rats de 90 jours avec ce soja. Alors, je rappelle à nos auditeurs que eh bien, les seules choses qu'on ait pour savoir si un OGM est dangereux pour la santé ou pas, c'est les analyses de sang des animaux qui en ont mangé. Parce qu'on ne peut pas dire que les Américains en ont mangé et tout va bien, puisque les diabètes, les cancers, les maladies alimentaires se multiplient là-bas, et que les OGM n'étant pas étiquetés, on ne peut faire aucun lien entre les deux. Et donc, les seuls indices que l'on ait, que l'on commence à avoir, c'est quand des animaux en mangent, et quand c'est fait par des entreprises, parce que ce sont les seules expériences, malheureusement, qui soient financées, c'est les entreprises qui les financent, ça coûte assez cher, au moins 1 million d'euros. Et nous n'avons pas ces données pour ce soja Liberty, ce soja tolérant à un herbicide. C'est... Et alors ça va très bien avec, d'une part, la décision de l'EFSA aujourd'hui qui consiste
donc,
à dire...
Donc l'EFSA, c'est l'Agence européenne de sécurité des aliments.
...guides d'évaluation et dans ces nouveaux guides. Ça ne fera pas la peine de donner à manger aux animaux des OGM pendant 3 mois avant de les autoriser. On va dire que maintenant tout le monde sait que les OGM c'est bon. Et ça va avec notre pétition qui demande qu'il y ait la plus grande transparence sur ces effets parce qu'on a trouvé des effets significatifs sur la plupart des OGM.
C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu, malgré le coût, malgré la répugnance des compagnies, des grandes firmes à faire ce genre d'analyse, il y en a eu quelques-unes dont, curieusement, les résultats ne sont pas publics, rendus publics.
Tout en fait, Rouf. Et il a fallu se battre pour que... Au contraire, une toute petite minorité ait des résultats publics jusqu'en cours d'appel au niveau de l'Allemagne. Des associations, donc Greenpeace, se sont battues pour avoir les analyses de sang des animaux qui avaient mangé des OGM. Vous imaginez, on est au... Regardez, prenons, allez, rêvons un petit peu, prenons quelques dizaines d'années de recul, si l'espèce humaine s'en sort encore bien avec toutes les modifications climatiques et autres, ce que j'espère. Et nous nous disons, ben voilà, on n'a pas été foutus au début du XXIe siècle, avec ce débat qu'il y avait sur les OGM, d'en donner officiellement plus de 3 mois à des rats et de mesurer tous leurs effets dans le sang, et de rendre ça public. Alors que le monde entier se demande s'il y a des effets. Non mais je crois rêver. Et les politiques... Eh bien, accepte encore cette situation. Voilà pourquoi nous faisons une pétition et nous demandons qu'elle soit le plus diffusée possible. C'est absolument scandaleux et c'est la honte à la fois de la science et de la santé publique que d'accepter une telle situation. Et le soja OGM Liberty est la honte de la génétique.
Gilles-Éric Serralini, ce matin, nous avons consacré notre émission à la question démographique et à ses liens en particulier avec l'alimentation. Et puis, on parle énormément de crise alimentaire. On reviendra d'ailleurs dessus dans les émissions qui viennent. Alors, l'argument des pro-OGM sur « il faut nourrir le monde
». Évidemment qu'il faut nourrir le monde, mais évidemment que l'argument de dire c'est les OGM qui le font ou les OGM qui vont le faire est ridicule. Les OGM ne le font pas parce que, depuis un peu plus de 10 ans, date de leur commercialisation, ils n'ont fait que nourrir les vaches et les cochons des pays riches. Et le fait qu'ils soient brevetés, proscrit, interdit que les pays pauvres y aient un accès facile comme les médicaments. Et donc les OGM d'aujourd'hui, tels qu'ils sont conçus, représentent une part de la famine grandissante dans le monde. Et on l'a vu notamment cette année avec l'histoire des agrocarburants et des OGM brevetés en ce sens.
Voilà, on recevait ce matin Faye Dutchin et le professeur Gilles-Éric Serralini. Cette émission est terminée. Vous savez que vous pouvez la télécharger pendant une semaine sur notre site franceculture.com. Vous y retrouverez quelques références bibliographiques et la pétition de Gilles-Éric Serralini. Vous pouvez également nous téléphoner au 01 56 40 36 72 ou nous écrire à Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Le Phytobar, cette année, ce sera donc le mercredi, le premier mercredi du mois, donc mercredi 1er octobre à 19h au Phytobar, 47 boulevard Saint-Germain. Ce sera sur la crise alimentaire. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi, préparation, documentation Laurence Chenepin, Anne Gouzon, mixage Philippe Carminati, réalisation Olivier Bétard. Bonne semaine à tous.